RCF. Il est 7h30, toute l'information de ce mardi avec Lucie Rispal. Bonjour Lucie.
Bonjour Grégoire, bonjour à toutes et à tous.
Après presque 6 mois de blocage, le Conseil de sécurité de l'ONU adopte une résolution pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza.
Les États-Unis se sont abstenus, mais la Chine et la Russie ont voté pour cette résolution. Seulement, l'application de cette dernière reste incertaine et on est encore loin de la fin des combats, vous l'entendrez. En France, Gabriel Attal a annoncé des moyens exceptionnels partout face au terrorisme islamiste, avec 4000 militaires mobilisés et en alerte. Notre pays reste une cible majeure des djihadistes. On en parle dans quelques minutes. Vos chocolats Pâques pourraient vous coûter plus cher cette année, en cause la hausse des prix du cacao. Explication en fin de journal.
Au bout de 5 mois et demi de blocage, le Conseil de sécurité des Nations Unies a enfin adopté une résolution appelant à un cessez-le-feu immédiat à Gaza.
Ce texte ne s'applique qu'au mois de Ramadan qui a déjà débuté depuis 2 semaines. Sa traduction sur le terrain demeure très incertaine donc de cette résolution, même si Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, estime qu'il serait impardonnable de l'ignorer. Les États-Unis se sont abstenus, mais la Chine et la Russie ont voté pour. Le texte était proposé par plusieurs membres non permanents du Conseil comme le Japon, Malte ou encore la Slovénie. C'est une première, mais on est encore loin d'un arrêt des combats, estime Jean-Claude Lescure, professeur des universités en histoire contemporaine à l'université de Cergy-Pontoise, auteur notamment du conflit israélo-palestinien en 100 questions.
Ce n'est pas une garantie de cesser le feu. La résolution peut encore être une lettre morte comme tant d'autres dans ces échanges internationaux. Israël fait peu de cas depuis très longtemps des décisions de l'ONU. Elle s'estime isolée et incomprise par l'ONU. Et de l'autre côté, cette résolution signifie qu'il y a un éloignement entre les États-Unis, soutien inconditionnel d'Israël jusqu'il y a peu, et Netanyahou qui se voit contesté depuis plusieurs semaines dans son jusqu'au boutisme par l'administration américaine, le président Biden, le secrétaire d'État Blinken, qui ont fait savoir à plusieurs reprises leur mécontentement.
Le vainqueur annoncé de la présidentielle au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a effectué une apparition publique hier soir après l'annonce de sa victoire spectaculaire dès le premier tour au scrutin. Le peuple sénégalais a fait le choix de la rupture, a-t-il déclaré, la rupture avec le système en place. Il espérait échapper à un procès en pleine campagne pour la présidentielle, mais Donald Trump sera jugé au pénal à partir du 15 avril à New York. C'est une première historique pour un ex-président américain. Au tribunal pénal de Manhattan, où l'ex-locataire de la Maison-Blanche était convoqué hier, le juge a décidé que l'affaire de paiement à une actrice de film pornographique en 2016 serait donc bien jugée. Dans le reste de l'actualité internationale, journée décisive pour Julian Assange. La justice britannique va dire aujourd'hui si elle accorde au fondateur de Wikileaks un dernier recours contre son extradition vers les États-Unis, pays où il risque 175 ans de prison pour des fuites de documents confidentiels.
Le chef de l'État est en visite depuis hier en Guyane.
Emmanuel Macron promet de combattre la pêche et l'orpaillage illégal, deux défis cruciaux de ce département français frontalier du Brésil. Face aux chercheurs d'or clandestin, le président s'est montré ouvert à l'installation d'une filière d'orpaillage légal dans certains endroits, avec l'objectif d'occuper certains sites pour réduire l'activité illégale. Mais d'autres sujets sont sur la table. 2 ans après avoir voté une proposition d'autonomie, les élus du département sont remontés. Ils attendent du président une révision constitutionnelle comme pour la Corse. Jean-Victor Castor, député de la première circonscription de Guyane, dénonce un deux poids, deux mesures pour les Guyanais.
Il y a eu le 22 mars 2022 un vote unanime de tous les élus de Guyane pour que la Guyane ait un article propre de la Constitution, vu sa taille, vu son emplacement géographique, vu la capacité en matière de ressources qui pourrait se transformer en richesse. On demande à un territoire aussi grand que le Portugal, avec 300 000 habitants, de fonctionner avec un budget qui est en dessous du milliard d'euros. alors qu'à population équivalente, la Corse, la Polynésie ou la Nouvelle-Calédonie, les recettes de leurs collectivités et de leurs assemblées, c'est de l'ordre de 2 milliards 2 à 2 milliards 4. Donc en fait, on est dans une situation, on est dans une impasse qui est connue du président de la République et les Guyanais en ont marre en fait de ce mépris. Effectivement, il y a deux poids deux mesures.
Et le président se rendra dès ce soir au Brésil voisin.
Et retour, enfin toujours en France d'ailleurs, Gabriel Attal a annoncé des moyens exceptionnels partout en France face au terrorisme islamiste.
Oui, avec 4000 militaires supplémentaires placés en alerte. La menace terroriste est réelle et forte et elle n'a jamais faibli, a dit le Premier ministre lors de sa visite hier à la gare Saint-Lazare à Paris. Gérald Darmanin, invité hier du journal de France 2, a affirmé lui que la France n'avait jamais autant déjoué d'attentats. Mais pourquoi notre pays prend toutes ces mesures? Explication de Magali Santulli.
Il y a d'abord une réaction face à l'attentat de Moscou, un attentat qui rappelle celui mené en novembre 2015 par des commandos du même État islamique contre le Bataclan. Par ailleurs, 4 mois après le meurtre de Dominique Bernard à Arras par un ancien élève radicalisé, la sécurité des établissements suscite toujours des inquiétudes. 130 lycées et collèges ont été visés par des menaces d'attentats et des actes malveillants via les espaces numériques de travail, notamment en Île-de-France, dans les Hauts-de-France et dans la région Grand Est. La France reste également une cible des djihadistes depuis l'attaque du 7 octobre en Israël. D'après les chiffres du ministère de l'Intérieur, 24 attaques terroristes ont été perpétrées sur le sol français depuis 2015. Dans le même temps, 74 attentats ont pu être déjoués. Enfin, l'objectif du gouvernement est de tenter de rassurer, alors que la France s'apprête à accueillir dans 4 mois les Jeux Olympiques.
Et justement, Camille Chaise, porte-parole du ministère de l'Intérieur, sera l'invitée de la matinale pour en parler, pour rassurer. Rendez-vous à 8h10.
L'année 2023 a été marquée par une banalisation des atteintes aux droits, s'inquiète la défenseure des droits dans son rapport annuel. L'autorité indépendante, qui est chargée notamment de défendre les droits des citoyens face à l'administration, a reçu l'année dernière plus de 137 000 réclamations, soit 10% de plus que l'année précédente.
Au chapitre économie maintenant, à combien s'élèvera vraiment la facture? C'est aujourd'hui que l'INSEE doit dévoiler le déficit public de la France l'an dernier.
Un déficit qui sera significativement plus élevé que les 4,9% du PIB initialement prévu, c'est ce qu'a admis le gouvernement. L'écart devrait plutôt s'approcher des 5,6%. Un déficit important et mal anticipé qui devrait conduire à de nouvelles coupes budgétaires après celles annoncées mi-février. Dans ce contexte, les collectivités territoriales craignent de voir leur budget restreint et leur champ d'action limité. Muriel Fabre est maire de Lampertheim et secrétaire générale de l'AMF, l'Association des maires de France.
Aujourd'hui, force est de constater que les collectivités devraient une fois de plus participer à cet effort de redressement des finances publiques. Il est toujours très prudent de tirer la sonnette d'alarme en rappelant que effectivement, les budgets des collectivités sont forcément et nécessairement à l'équilibre et qu'il y a aujourd'hui une réalité locale qui démontre des finances plutôt saines et qu'il faut aujourd'hui, pour continuer à nous permettre d'agir, ne pas encore obérer nos financements. Donc il faut qu'on puisse continuer à agir et que l'on arrête, entre guillemets, de nous soumettre à des contractualisations, à des réductions de dépenses dans lesquelles, en fait, on n'a pas forcément, nous, de levier non plus. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on ne soit pas tout le temps tributaire, entre guillemets, d'une gestion du budget de l'État.
Les chocolats de Pâques pourraient coûter plus cher cette année.
Le chocolatier Lindt, qui a déjà augmenté ses prix de 10% l'année dernière, va à nouveau le faire de 5% ce mois-ci. En cause, la hausse du prix du cacao. Les prix ont grimpé pour atteindre environ 8 500 $ la tonne, soit 7 800 € environ. En février, le prix était à 6 500 $, environ 6 000 €. On note un bond de plus de 150% par rapport à janvier 2023. Une hausse à cause des aléas climatiques. Philippe Chalmin, économiste et fondateur du Cercle Cyclope.
C'est directement lié aux aléas climatiques et puis quand même à une bonne dynamique de la demande, non seulement dans les pays traditionnels comme les nôtres où nous consommons des chocolats, mais aussi dans des pays nouveaux, entre guillemets, notamment en Asie, avec une augmentation de la demande pour le chocolat ou au moins pour le goût chocolaté.
Philippe Chalmin, fondateur du Cercle Cyclope, qui publie chaque année un rapport sur les marchés des matières premières. Et puis ce soir, vous regarderez peut-être le foot, Grégoire, France-Chili, 21h, match amical.
On essaiera de faire mieux que contre l'Allemagne, où on avait pris un but à la 7e seconde de jeu. C'est quand même assez fort, un record. Merci beaucoup, Lucie Rispal, pour ce journal de la rédaction. Le prochain rendez-vous à 8h.